Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview dans la salle polyvalente dans le cadre des rencontres de l'écologie. Face à moi, je suis en présence de Jean-Baptiste Boyer, bonjour.
Bonjour.
Et de Stéphane Châtelain, bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous avez participé à la transition énergétique est-elle une utopie, une proposition de conférence face à un public avec des questions et un débat à la suite, et avec aussi Jean-Baptiste Frézos qui était en visioconférence. Tous deux, vous êtes ici pour représenter notamment pour M. Boyer 10 watts et M. Châtelain, co-directeur de l'Institut Négawatt. Alors, avant tout, est-ce que vous pouvez présenter chacun cette structure que vous représentez? Je commence par M. Boyer.
Oui, donc moi je suis président de DEWAT, qui est donc une coopérative d'intérêt collectif qui intervient sur toute la vallée de la Drôme et qui porte un projet de transition énergétique citoyenne sur la vallée. On compte aujourd'hui un peu plus de 200 sociétaires et on développe beaucoup de projets photovoltaïques, bois énergie et puis un peu d'éolien, ainsi que des projets plutôt de maîtrise de la demande en énergie. Aujourd'hui, un de nos grands axes, c'est aussi produire de l'électricité qu'on va vendre directement en local à travers ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Le tout ayant aussi une grosse vocation, d'éducation populaire à la transition énergétique et aussi de réappropriation démocratique du sujet.
Monsieur Châtelain, alors, Négawatt, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une association qui a été créée il y a un peu plus de 20 ans, qui travaille sur deux sujets qui sont liés. Le premier sujet, c'est la thématique énergie-climat. Et puis, le deuxième sujet, qui est celui des matériaux et des matières premières. Et à Négawatt, on a donc deux activités principales autour de ces deux sujets. Une première activité qui est une activité de production, d'expertise, d'analyse, pour essayer de voir comment on peut faire évoluer nos modes de consommation et nos modes de production à la fois d'énergie et de matériaux. Et puis une activité de plaidoyer au niveau national comme européen pour essayer de voir comment faire évoluer, bouger les politiques publiques en matière d'énergie et de consommation de matières premières et de production.
Il y a cet aspect aussi de la transition énergétique qui est très problématique aujourd'hui au niveau des politiques, au niveau des États. Il y a une hésitation, semble-t-il, même parfois du recul. Pour vous, quel est votre sentiment, vous, en tant qu'acteur de cette transition énergétique, face à ces décisions qui parfois nous égarent?
C'est vrai qu'on a constaté pendant des années, voire des décennies, qu'il y avait des politiques environnementales qui se mettaient en place, qui n'étaient pas assez ambitieuses, mais qui globalement, petit à petit, allaient dans le bon sens. C'est-à-dire que petit à petit, on a mis en place des actions visant à réduire les consommations ou à changer de mix énergétique, mais de manière beaucoup trop lente face aux enjeux, mais ça allait globalement dans le bon sens, même si ce n'était pas du tout assez rapide. Et depuis 1 à 2 ans, on constate l'inverse, c'est-à-dire qu'on a effectivement des reculs au niveau national, comme au niveau européen, comme au niveau mondial. Et l'élection de Trump n'arrange rien, évidemment. Et donc maintenant, la question, c'est comment on essaye de faire en sorte que ces reculs n'aient pas lieu pour retourner dans cette dynamique positive de transition énergétique. Et on voit que cet enjeu-là, il est à tous les échelons, au niveau international, au niveau national, mais aussi au niveau local. La question, c'est comment on arrive à embarquer à la fois les citoyens, les collectivités, les entreprises et les décideurs politiques nationaux et européens dans cette transition énergétique.
Jean-Baptiste Boyer, vous avez peut-être un mot à dire dessus aussi ?
Il y a le fait que finalement les décideurs, globalement on sait de plus en plus ce qu'il faut faire et quels sont les problèmes et ils sont de plus en plus identifiés, documentés. Et en même temps, les discours politiques, là, on assiste plutôt à des reculades de ces derniers temps qui s'éloignent de plus en plus de la littérature qui est scientifique et autre, qui est pondue sur le sujet. Ce qui est, de fait, en tant qu'acteur engagé et un peu conscient des enjeux, pas forcément rassurant. Et après, ça peut être mobilisateur à certains niveaux, une fois qu'on passe un peu peut-être des moments d'épuisement en se disant en fait, à quoi ça sert de faire ça au niveau local si les grands décideurs ne prennent pas leurs responsabilités. Mais bon, une fois passé ça, on se dit qu'il y a quand même toujours des efforts à faire et que ces efforts, ils auront forcément un impact, même si l'objectif de l'accord de Paris, etc., n'est pas atteint.
Alors, je reviens un peu sur le titre de cette conférence qui s'intitule donc « La transition énergétique est-elle une utopie ?» Qu'est-ce que cela évoque pour vous chacun, cette question ?
Alors c'est bien parce que dans toute la conférence, finalement, on l'a assez peu traité comme question. C'est sûr qu'un premier constat peut-être, c'est que... Aujourd'hui, la transition énergétique n'est pas faite. Et de quoi on parle quand on parle de transition énergétique? C'est grosso modo diviser par deux les consommations d'énergie. En tout cas, sur la partie française, hein, au niveau mondial, c'est un petit peu différent. Mais sur la partie française, diviser par deux les consommations et multiplier par quatre la production d'énergie renouvelable. Ça peut un peu varier selon les scénarios, mais il y a toujours, grosso modo, peu de nucléaire et beaucoup d'énergie renouvelable, voilà, grosso modo, ou pas de nucléaire et beaucoup d'énergie renouvelable. Et donc ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas le cas dans notre mix énergétique et qu'on est majoritairement sur du fossile. Oui, c'est un peu, c'est utopique dans le sens où on se dit que la société vers laquelle on irait, enfin dans laquelle on serait si on avait une transition énergétique, elle serait certainement plus respectueuse de l'environnement, plus harmonieuse peut-être, et où on aurait peut-être un peu moins de pollution que ce qu'on a aujourd'hui. Et on n'aurait pas de fait un chaos climatique. Donc de fait, ça... Voilà, y a un univers de l'utopie qui est là, au sens où c'est ce qui doit un peu nous guider dans l'action. Mais aujourd'hui, ça reste aussi à un stade de représentation, puisque c'est pas du tout une réalité.
Alors, je me tourne vers M. Châtelain. Vous préconisez pour un mode d'utilisation aussi, d'une gestion raisonnée de l'énergie. Vous travaillez sur ce domaine aussi, et comment inciter la population à œuvrer ou à aller ou à acter sur ce genre d'économie d'énergie?
Alors effectivement, on travaille assez fortement sur les enjeux de consommation, puisque comme Jean-Baptiste l'a dit, l'objectif c'est de diviser par deux en France la consommation d'énergie globale. Et donc pour ça, en fait, ce qu'on a fait à Négawatt, c'est qu'on a regardé aujourd'hui comment elle était consommée, cette énergie, dans tous les usages, dans le bâtiment, dans les transports, dans l'industrie. Il y a plusieurs usages de l'énergie qu'on a modélisé dans le scénario. Et pour chaque usage de l'énergie, on a essayé de voir, par des actions soit de sobriété, soit d'efficacité énergétique, comment on peut aller vers une évolution à la baisse de ces consommations. Et on voit qu'en fait, des actions, il faut en faire à peu près de partout, dans tous ces usages, et à tous les échelons. Évidemment, au niveau individuel, il y a tout un tas d'actions qu'on peut faire, que ce soit dans son logement, dans ses déplacements, dans ses achats du quotidien et autres. Mais au niveau collectif, il y a aussi énormément à faire. Et si on veut que les citoyens aillent vers de la sobriété, il faut aussi que la collectivité mette en place les infrastructures nécessaires pour permettre ces évolutions de comportement chez les citoyens. Et ça, c'est vrai notamment dans les transports. Si on veut arrêter l'usage intensif de la voiture individuelle, il faut proposer des alternatives aux citoyens. Il faut aussi que des politiques publiques nationales travaillent sur la question des imaginaires, des récits collectifs, pour que les normes sociales puissent évoluer. Si on prend l'exemple de l'aviation, on sait que l'avion n'est pas du tout un mode de transport soutenable. Il y a une toute petite partie de la population aujourd'hui au niveau mondial qui prend l'avion. Si ça devait se généraliser, on irait droit vers un chaos climatique assez rapide. Donc voilà, il y a une urgence à réduire, à freiner l'aérien. Mais tant que l'avion restera à la fois moins cher que d'autres modes de transport, et même beaucoup moins cher que d'autres modes de transport, et tant qu'on continuera à avoir un peu partout sur les quais de métro ou ailleurs, à Paris, des pubs pour des trajets en avion à l'autre bout du monde, et ben on continuera à se dire « Ah ouais, finalement, prendre l'avion, c'est pas cher, c'est plutôt sympa ». Donc voilà, il y a aussi cet imaginaire collectif à faire évoluer pour que finalement, eh ben, demain, quand on rentre de vacances, ce ne soit pas forcément très bien vu d'avoir pris l'avion, mais plutôt d'être allé à 100 km ou 200 km de chez soi et d'avoir fait une autre forme de tourisme. Donc voilà, il y a aussi tout un travail à faire autour de ça.
Alors, face à ce recul de politique nationale et internationale, il y a cette peut-être solution du territoire. Est-ce que pour vous, c'est aussi une clé pour l'avenir de tenter ou de créer peut-être l'énergie du futur ou de sa gestion, du moins avec ce titre, coopérer pour un territoire vivant. Donc ça induit aussi que les acteurs d'un territoire puissent agir dans ce sens et peut-être être quelque part une vitrine pour inspirer des politiques au-delà d'un territoire.
Oui, en fait, il y a... Alors effectivement, le caractère vitrine des fois de ce qu'on peut faire, etc., va jouer certainement sur les imaginaires. On essaie plutôt d'avoir un imaginaire désirable en parallèle des discours un peu technico-dépressifs qu'on peut avoir parfois. Donc il y a quand même l'envie de montrer qu'on peut faire différemment. Après, la construction, elle se fait vraiment à différents niveaux. Et c'est-à-dire que il faut pas se dire c'est bon, je caricature, mais à l'échelle individuelle, se dire c'est bon, j'ai mis des panneaux solaires sur mon toit, donc finalement ma transition énergétique à moi, elle est faite et fin de l'histoire. La question, c'est des constructions collectives et politiques à différents endroits et l'échelle, on va dire, de l'intercommunalité, du bassin de vie, enfin, c'est des échelles qui sont facilement appréhendable et dans lequel on peut facilement saisir les choses. Donc ça reste un bon endroit de travail. Voilà.
Est-ce qu'il peut y avoir une notion d'autonomie ?
Alors oui, mais toujours relative. C'est-à-dire que le fait de vouloir l'autonomie pour soi, c'est quelque, enfin, ou même pour son collectif, c'est
pour un territoire,
ouais, hein, ou même pour un territoire, oui. c'est ça peut être, faut faire attention parce que ça a des certaines vertus au sens dire se rendre indépendant, responsable, etc. Mais ça a aussi un vice de conception. En fait, on fait tous partie d'une société humaine qui est beaucoup plus large que le territoire sur lequel on se déplace. Et donc le sujet, et même si on raisonne à l'échelle de la France, c'est pas juste que Biovallée, en ce qui nous concerne, avec de la Drôme, soit ne serait-ce qu'autonome, mais plutôt que déjà, si on peut se dire que au moins ce qu'on fait, c'est cohérent à une échelle nationale, par exemple, c'est déjà un petit peu plus cohérent en termes intellectuels, quoi. Donc c'est vrai que typiquement ce qu'on porte sur la vallée, ce qui est les déclinaisons locales des scénarios négawatts, c'est le fait qu'un territoire comme Biovallée se doit d'être exportateur en énergie. Non pas pour en tirer des ressources économiques, c'est pas avec cette idée-là, mais avec cette idée que d'autres territoires auront besoin de cette énergie, même après avoir fait des efforts de réduction de consommation. Et donc, il faut, bien sûr, c'est bien de viser l'autonomie dans un premier pas, mais pas oublier que, en fait, on a tous des liens en dehors du territoire et que, du coup, l'autonomie énergétique, quelque part, ne s'arrête pas à la porte de sa commune, quoi.
Je me tourne vers M. Châtelain. Donc, vous, au sein de Négawatt, vous prévoyez un scénario Négawatt 2022-2050. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez peut-être nous expliquer ?
Oui, alors le scénario Négawatt, c'est pas un scénario de prévision. Hein. On n'a pas de boule de cristal. C'est plutôt un scénario où on essaye de montrer quelle pourrait être une trajectoire possible de l'évolution de nos consommations et de production d'énergie pour répondre à un certain nombre d'enjeux de soutenabilité. Donc dans ces enjeux, il y a évidemment le dérèglement climatique, mais il y a aussi l'effondrement de la biodiversité, la précarité énergétique, la pollution de l'air, de l'eau, des sols, et j'en passe. Il y a plein d'enjeux qui sont en fait liés à notre système énergétique. Et l'idée, c'est de voir comment on peut y répondre. Et l'idée aussi d'un scénario, c'est pas juste de regarder la photo finale en 2050, le point d'arrivée, mais aussi de regarder le chemin pour atteindre ce point d'arrivée. Et c'est évidemment ça qui est important, savoir quelles sont les dynamiques à mettre en œuvre et comment en fait il faut intégrer les impératifs de long terme dans nos décisions de court terme. Et pour que les politiques intègrent ces enjeux de long terme dans les décisions qui sont prises à court terme, parce qu'eux, ils ont forcément tendance, enfin forcément en tout cas c'est ce qu'on constate, ils ont tendance à se focaliser sur les enjeux du mandat en cours. Les enjeux à 2050 les dépassent complètement, c'est hors de leur champ d'intérêt, on va dire. Et donc l'idée d'un scénario, c'est aussi ça, c'est aussi voir qu'est-ce qu'on doit engager dès maintenant pour répondre à ces enjeux de 2050. On le voit par exemple sur le parc de bâtiments. On sait que d'ici 2050, en gros, il faut qu'on ait rénové une grande majorité du parc existant. Ce n'est pas en 2045 qu'il faudra se réveiller en se disant « Tiens, il faudrait peut-être qu'on isole les bâtiments. » On ne va pas isoler 10 millions de bâtiments par an pendant 3 ans. Donc si on veut rester à un rythme de rénovation qui soit abordable, et on n'y est déjà presque plus, il faut démarrer dès maintenant, lancer dès maintenant un grand programme de rénovation du parc bâti. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on voit dans ce scénario Négawatts. On va regarder comment, à travers à la fois la sobriété, donc questionner un petit peu les usages de l'énergie, l'efficacité énergétique, donc le recours aux équipements les plus performants, et puis le déploiement des énergies renouvelables, comment on va pouvoir progressivement donc à la fois réduire nos consommations et remplacer les énergies fossiles et nucléaires par ces énergies renouvelables pour répondre encore une fois à ces enjeux de soutenabilité.
Alors vous-même donc êtes expert hein, sur cette gestion de l'énergie et de son utilisation, mais comment portez votre travail au public? Est-ce qu'il existe un circuit, une pédagogie ou alors est-ce qu'il faut passer par d'autres structures?
Alors nous, notre cible principale à Négawatts, c'est pas le grand public, on travaille plutôt à destination des décideurs politiques. Par contre, on est en lien avec d'autres organisations dont c'est le métier d'être en lien avec le grand public. Hein. Je pense notamment à toutes les grandes associations environnementales. Et donc on les alimente en travaux, en analyse, en réflexion. Et elles s'inspirent de nos travaux pour ensuite porter leur message auprès du grand public. Mais nous, c'est vrai que c'est pas notre cœur de métier. On n'a pas forcément les compétences pour ça. On n'est pas organisé pour ça. Et encore une fois, il y a d'autres structures qui le font très bien. Donc on laisse volontiers le soin à d'autres de le faire. Nous, c'est plutôt d'alimenter ces structures qui est notre activité.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5.
101.7
FM.
Je me tourne vers Jean-Baptiste Boyer par rapport à DIWATT qui donc préconise et propose que ce soit de l'énergie renouvelable avec l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. Cela nécessite quand même un matériel et comme vous dites, on est sur un territoire au milieu d'une planète. Comment articuler justement le national, l'international au niveau du matériel pour prétendre justement?
Alors oui, c'est une question qui est pas facile à traiter de fait au niveau local, on va dire, puisque bah, typiquement il est en tout cas on va dire hors de propos par exemple d'avoir une usine de panneaux solaires sur le territoire. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est plutôt vraiment des très grosses usines qui du coup dépassent, sont pas à l'échelle du territoire sur lequel elles sont. D'où aussi le lien avec ce que je disais avant, c'est-à-dire que en fait, penser l'autonomie à l'échelle de son territoire, c'est très vite peut-être un peu réducteur. Ou voilà. Et donc, il y a ce sujet-là, même si le sujet des matériaux dans la transition énergétique est important. Pour autant, comme on a pu un peu le dire dans la conférence, l'essentiel de la problématique matière sur la transition énergétique ne se situe pas forcément au niveau de la production de l'éolien et du solaire. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact, mais il y a en fait un gros sujet de matière sur aussi l'ensemble de notre société de consommation. Et, le sujet est presque un peu plus là que sur la production en tant que telle. Après, nous, concrètement, On essaye par exemple, enfin on propose systématiquement dans les installations solaires qu'on met en œuvre, de plutôt aller sur du matériel assemblé en Europe. Alors c'est pareil, c'est pas des postures naïves, on sait que les cellules viennent d'Asie, pas forcément de Chine en tant que telle d'ailleurs, mais d'Asie. Mais on essaye d'avoir, de proposer plutôt du matériel assemblé en Europe, plutôt que d'aller chercher forcément le moins cher. On fait ça aussi sur les onduleurs typiquement, qui sont l'autre grande composante des installations photovoltaïques. Et aujourd'hui, c'est quand même un choix militant de le faire, puisque la plupart des gros développeurs ou de l'industrie solaire se posent rarement cette question de où sont assemblées les choses. Ça ne résout pas en tant que tel la question qu'il faut des matériaux pour faire les panneaux. C'est beaucoup plus des questions de vision politique et de relocalisation, dans la mesure du possible, de notre économie et d'aller chercher au plus proche. Et c'est plutôt comme ça qu'on le raisonne. L'autre grand sujet en termes de relocalisation, c'est typiquement l'utilisation du bois énergie pour certains usages, pas évidemment pour tout, mais où aujourd'hui on intervient souvent quand même en remplacement d'une chaudière fuel ou gaz. Se dire, bah, en fait, quand on vient mettre une chaudière bois, surtout des bois plaquettes, comme on peut avoir par exemple au monastère de Sainte-Croix ou la résidence des Genêts, en fait, on va avoir un combustible qui va parcourir plutôt de l'ordre de 30 à peut-être 50 km. Et donc, c'est forcément beaucoup moins que le pétrole qu'on fait venir de l'autre bout du monde. Donc voilà, c'est plutôt comme ça qu'on essaye de développer de la filière courte. Mais encore une fois, sans nier le fait qu'il y a des impacts de la transition énergétique. Et du coup, la question, c'est choisir les impacts qu'on veut avoir par rapport à d'autres qu'on n'aurait pas choisis.
Stéphane Châtelain, par rapport justement à cette information ou à cette pédagogie auprès des décideurs, est-ce que vous sentez en retour un intérêt de leur part sur cette transition énergétique ?
Oui, alors c'est très variable, hein. C'est difficile de faire une généralité là-dessus. Ce qu'on constate quand même, c'est que depuis un certain nombre d'années, on sent une vraie écoute de la part d'une partie des décideurs politiques. Et on a un vrai dialogue avec eux. La difficulté, c'est comment, même si on a par exemple, on peut avoir des échanges avec le ministre en charge des sujets énergie-climat, des échanges sur lesquels on constate un certain nombre de points d'accord. La question, c'est une fois qu'on est d'accord là-dessus, c'est l'étape suivante, c'est à mettre en place les politiques publiques qui vont bien. Et là, on voit que, en fait, depuis toujours, le ministère en charge de l'énergie, l'environnement plus globalement, a très peu de poids, en fait, au sein d'un gouvernement, quel qu'il soit. Les gouvernements se succèdent, mais le constat est toujours le même. Et tant qu'en fait, la politique environnementale est décidée par une ou deux personnes, c'est-à-dire le président, voire le Premier ministre dans certains cas, mais c'est rarement le cas, en fait, les choses n'avancent pas, ou pas suffisamment, en tout cas. Voilà, on a de plus en plus d'écoute, de plus en plus de dialogue possible, mais pour autant, on voit que ça n'avance pas du tout assez vite, tant que dans le système politique actuel français, où énormément de choses reposent sur le président de la République, tant qu'on n'a pas un président de la République qui est convaincu qu'il faut mettre le paquet là-dessus, ça n'avancera pas.
Et puis, il y a quand même les investisseurs ou peut-être même les entrepreneurs. Est-ce que vous sentez une volonté de leur part aussi de trouver des solutions pour l'avenir ?
C'est vrai que les acteurs économiques, les entreprises, ont du mal à avoir une vision d'ensemble de ces enjeux-là. Elles sont quand même souvent plus centrées sur leur secteur d'activité, ce qui est assez normal. Mais pour autant, c'est vrai qu'on voit que sur un certain nombre de sujets, on arrive à trouver pas mal d'acteurs économiques qui peuvent être poussés dans le même sens que nous. Certains sujets, certaines propositions d'évolution des politiques publiques. Finalement, on a presque l'impression que le dernier acteur qui bougera, c'est l'acteur politique. L'acteur économique parfois bougera plus vite. Alors ça, c'est vrai sur certains sujets, mais évidemment pas sur tous, parce que sur d'autres sujets, c'est clairement les acteurs économiques qui freinent. Et si l'État est aussi frileux, c'est parce que derrière, certains acteurs économiques sont très frileux. En fait, une problématique, c'est que dans cette transition énergétique, si on regarde d'un point de vue économique, il y a des perdants et il y a des gagnants. Les perdants, on les identifie bien aujourd'hui, ils existent déjà aujourd'hui. Les gagnants, ils n'existent pas forcément aujourd'hui. Une partie si, mais d'autres non. Et donc on sait ce qu'on perd et voilà, ce qu'on gagne est moins palpable.
Je reviens juste, est-ce que vous pourriez nous citer un exemple de perdant ?
Bah oui, perdant, si on prend par exemple le secteur de la production d'énergie, si on se dit qu'il faut sortir du nucléaire et des énergies fossiles, bon, bah, les grandes entreprises du secteur fossile et nucléaire en France, Total, EDF par exemple, alors, ce ne sont pas forcément des perdants si elles se réorientent dans d'autres services énergétiques, soit dans la production d'énergie renouvelable, soit dans la maîtrise de l'énergie. Clairement, aujourd'hui, ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est un peu la fuite en avant, soit vers le nucléaire pour EDF, soit vers les fossiles pour Total. Et donc, tant qu'elles sont dans cette fuite en avant, ça sera des perdants de la transition énergétique si cette transition énergétique a lieu.
Jean-Baptiste Boyer, vous, en tant que... association entrepreneuse, hein, en quelque sorte, on peut dire aussi de cette transition énergétique. Est-ce que vous avez senti le vent tourner par rapport à vos prévisions depuis ces dernières années ?
Déjà, en tant que coopérative d'intérêt collectif, on est du coup plutôt dans la catégorie des acteurs éco qui essayent tant bien que mal d'avoir des visions d'ensemble et ce qui est peut-être aussi le résultat du fait que nos actionnaires, grosso modo, sont des sociétaires et des habitants et des collectivités. Et du coup, on aborde les choses un petit peu différemment. Le vent tourné, oui, alors c'est pareil, il faut arriver, nous, en tant qu'acteurs économiques, à jongler un peu entre les différents dispositifs qui peuvent exister, puisqu'il y a encore, c'est vrai pour tout un tas de choses en France, mais c'est en particulier vrai sur l'énergie, il y a une présence de l'État qui est très forte. On voit qu'il y a potentiellement des réglementations sur le solaire qui peuvent ouvrir les vannes à certains endroits, mais pas forcément ce qu'on voudrait voir, c'est-à-dire des énormes parcs solaires au sol sur des terrains où on ne s'est pas trop posé la question de l'usage du terrain en tant que tel. Voilà, et à d'autres endroits, plutôt réduire la voilure quand les mécanismes de soutien de l'électricité diminuent. Donc ça peut être assez fluctuant, mais par exemple, on a eu le dernier en date, c'est... Il y a eu beaucoup, dernièrement, beaucoup d'actualités autour des sorties sur la suppression de l'ADEME ou autre. Avant ça, si on repasse plutôt en fin d'année dernière plutôt que ce début d'année, c'était savoir quelles allaient être les coupes budgétaires côté ADEME et tous les dispositifs de soutien que l'ADEME opère, et notamment par exemple sur la chaleur renouvelable. Au final, on devrait se sentir pas si mal que ça, puisque les volumes globaux d'aide diminuent, mais là-dedans, les projets citoyens vont plutôt avoir tendance à être davantage soutenus que les autres. Et donc, c'est pas toujours, en tant que structure, encore une fois, acteur éco, c'est à nous de savoir saisir les bons signaux dans l'environnement économique et politique qui peuvent être assez contradictoires, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens bien intentionnés ou compétents, c'est au choix, un peu partout, à différentes strates, etc., et qui poussent plutôt en lien avec la lutte contre le réchauffement climatique, sont conscients des enjeux, etc. Et puis, il y a des postures soit dictées par les intérêts financiers immédiats, soit par des carrières politiques ou autres, des positionnements politiques qui tirent dans le mauvais sens. Et en fait, le paysage, c'est un peu les deux, quoi. Voilà. Mais c'est pas si catastrophiste que ça, parce qu'il y a quand même... nous, on en est... même au sein des institutions et au sein aussi des entreprises... privé classique du secteur, il y a plein de gens qui ont quand même conscience des choses et qui poussent autant qu'ils peuvent pour tourner les institutions et les entreprises avec plus ou moins de succès.
D'ailleurs, votre implantation DIWAT a permis cette transition auprès des entreprises ou des collectivités. Ça a pris quel pourcentage?
On a fait des stats il n'y a pas si longtemps que ça. C'est assez variable d'une intercommunalité à l'autre, puisque nous, on est présents sur à la fois le Diwa, le Crétois Pays de Saillant et le Val-de-Drôme. Sur le Val-de-Drôme, par exemple, si je prends juste sur le photovoltaïque, on a une influence, en tout cas, la part de production qu'on porte, nous, est assez minime par rapport à tout ce qui s'est fait sur ce territoire-là. Quand je dis assez minime, c'est de l'ordre de... de quelques pourcents, je ne sais plus, j'ai plus le truc en tête, mais c'est peut-être entre 2 et 4%, quelque chose comme ça, donc ce qui est assez, assez minime. En revanche, par exemple, sur le Diwa, je crois qu'on représente entre 30 et 40% des productions photovoltaïques installées depuis 2019. Et du coup, là, c'est beaucoup plus sensible. Et de fait, voilà, c'est pas le même impact. Sachant qu'il faut voir que les intercommunalités, et nous, et d'autres acteurs, font aussi beaucoup pour la promotion du solaire. Enfin, c'est aussi parce que plein de gens en parlent, proposent des solutions, etc. Et puis, participent à promouvoir la transition énergétique, que aussi ça se fait plus ou moins rapidement.
Justement, Monsieur Châtelain, par rapport à cette transition énergétique, vous prévoyez pour l'horizon 2050 une probabilité de 96% d'énergie renouvelable décarbonée.
Ouais, alors encore une fois, c'est pas de la prévision, hein, c'est ce que nous on soutient. Oui. Alors en fait, c'est 100% si on regarde l'énergie qu'on va consommer dans les usages traditionnels, dans le bâtiment, dans les transports, dans l'industrie. Les quelques pourcents où il y a encore de l'énergie fossile, c'est pas de l'énergie qui va être brûlée, c'est de l'énergie qui est plutôt utilisée sous forme de matière première, que ce soit dans du ciment ou dans de l'acier ou dans des plastiques. Mais toute l'énergie qui est consommée à des fins énergétiques est 100% renouvelable dans ce qu'on propose à travers le scénario négawatt, tout simplement parce que d'une part on a suffisamment d'énergie renouvelable pour pouvoir couvrir ce niveau de consommation, et d'autre part parce que c'est nécessaire, les énergies renouvelables étant intrinsèquement plus soutenables que les énergies fossiles et nucléaires. Et ce résultat on l'atteint parce qu'on a en parallèle divisé par deux la consommation d'énergie.
Et puis, il y a cette nécessité, donc, vous, en tant qu'acteur de cette transition énergétique, de coopérer. Alors, est-ce qu'il existe des ponts entre vous ou est-ce qu'il y a des choses à construire?
Entre nos deux entités?
Celle de Négawatt, par exemple, Diwatt, c'est à titre d'exemple. Hein.
Bah, y a pas, nous, Négawatt, on est peu en lien avec les acteurs locaux parce qu'on est une association nationale et qu'on a pas beaucoup de moyens pour être en lien avec des acteurs locaux. On le fait là dans le cadre d'intervention, mais sinon on travaille plutôt avec les têtes de pont au niveau national. Donc on peut être peut-être un peu plus en lien avec Énergie Partagée, qui regroupe un certain nombre d'acteurs du développement citoyen des énergies renouvelables en France. Mais c'est vrai que nous, malheureusement, on n'a pas assez de moyens pour être en lien avec des acteurs locaux. Après, ce qui n'empêche rien à la nécessité effectivement de coopération avec tout un tas d'acteurs à tous les échelons, que ce soit local comme national.
Dernière chose, c'est l'aspect numérique aussi, qui est très énergivore à l'heure actuelle. Est-ce que, pour vous, qu'est-ce que représente le numérique dans cette transition énergétique? Est-ce qu'il a une réelle utilité ou alors c'est plutôt une embûche?
Alors celle-là, elle n'est pas tout à fait facile. C'est-à-dire que je pense que dans la façon dont on se représente les choses, le numérique a sa place, c'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas forcément demain se priver du numérique complètement. Encore une fois, c'est plutôt la question des usages qui va être posée. C'est-à-dire que se dire que on déploie, de la 5G, des débits d'informations toujours plus gros, tout ça pour pouvoir regarder des séries formatées ou générées par intelligence artificielle, je suis pas sûr que ce soit des usages que collectivement on ait envie d'avoir et se dire « ah bah je suis prêt à me priver de plein de choses pour ça ». Pour autant, il y a aussi d'autres usages du numérique qui paraissent, qui peuvent paraître soit utiles directement à la transition énergétique. Je pense par exemple, avec des pincettes quand même, mais au compteur communicant, par exemple, qu'on fait aussi beaucoup de débats, etc. Ou des choses juste, où le numérique peut être utile aussi dans nos vies. Mais encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de position de principe sur pour ou contre le numérique. C'est un des outils qu'il faut utiliser forcément avec parcimonie et avec la conscience de la rareté des usages qu'on va déployer avec. Quoi.
Pareil pour vous, Monsieur Châtelain, par rapport à son utilisation du numérique, est-ce que pour vous c'est une préoccupation et une source de travail alors?
Déjà, il faut bien voir que le numérique, il est présent à peu près partout dans notre quotidien. Aujourd'hui, il y a très peu d'activités humaines qui ne sont pas dépendantes du numérique. Il en reste quelques-unes, mais vraiment très peu. Et donc, la question, c'est pas de savoir est-ce que demain, il faut arrêter le numérique. Mais comme l'a dit Jean-Baptiste, c'est la question des usages. Et puis peut-être aussi savoir qu'est-ce qui pose problème dans le numérique. Et souvent, on se dit, oui, c'est les data centers, ça consomme énormément d'énergie. En fait, la plus grande partie de consommation liée au numérique, c'est ce qu'on appelle les terminaux. Donc, c'est la fabrication des télés, des téléphones, des ordinateurs et leur utilisation. La consommation d'énergie à leur utilisation et à leur fabrication, ça, c'est en gros les deux tiers de l'impact du numérique. Les data centers, ça reste assez marginal. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun enjeu là-dessus, mais il est beaucoup moins important que tout ce qui est, encore une fois, les terminaux. Donc, nous, on regarde ça de près, effectivement, pour voir quelle pourrait être l'évolution possible. Et donc, si on se dit qu'on veut réduire les impacts du numérique, il y a un enjeu à avoir des produits qui soient des produits aussi bien des téléphones que des ordinateurs qui soient plus durables dans le temps, plus réparables, et qui consomment moins d'énergie à leur utilisation. Et puis après, pour revenir juste quand même sur les data centers, le gros de la consommation de données du numérique, c'est les vidéos. Hein, c'est 80% du flux de données, c'est les vidéos. Donc si on veut réduire la consommation de numérique, alors on peut faire attention aux pièces jointes qu'on met dans un mail, mais l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est sur la consommation de vidéos en ligne.
Eh bien, je vais vous laisser. Hein, et je vous remercie en tout cas, Jean-Baptiste Boyer, et Stéphane Châtelain pour respectivement 10 watts et négawatts. Et il y a des sites internet. Je mettrai le lien de chaque site sur la page de l'émission. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.